Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des hépatites. Deux de ces inflammations du foie, les virus de type B et C, qui à eux deux provoquent 1 400 000 morts chaque année, davantage de décès que le VIH-Sida ou la tuberculose. Pour l'hépatite B, un vaccin existe, ce qui n'empêche pas 257 millions de personnes d'être infectées dans le monde selon l'OMS. Pour la C, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a 71 millions de porteurs. Mais pour ces deux virus, un point commun, la majorité des malades ignorent leur statut. Ces infections qui parfois passent et dans d'autres cas évoluent en cirrhose ou cancer du foie, deux très graves complications de ces maladies transmises par le sang ou les liquides biologiques. Au mois d'avril, des chercheurs, des ONG, des ministres africains de la santé ont lancé un appel commun à Bordeaux dans le sud-ouest de la France pour que soient renforcées les politiques de prévention, vaccination contre l'hépatite B, dépistage précoce et accès au traitement pour tous. Car depuis 4 ans, la prise en charge de l'hépatite C a été bouleversée, révolutionnée, on peut le dire, par l'arrivée de nouveaux médicaments. Et si ces traitements innovants sont efficaces pour plus de 90% des patients, eh bien, ils restent encore inaccessibles pour l'essentiel des personnes touchées en Afrique et en Asie. Journée nationale de lutte contre les hépatites, on en parle avec vous aujourd'hui, professeur Christophe Ezode, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépatologue au CHU Henri Mondor à Créteil, en région parisienne. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Cameroun le professeur Oudou Njoya, chef de service de médecine interne du CHU Yaoundé, directeur du laboratoire de recherche sur les hépatites virales et la communication en santé de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. En fin d'émission, nous retrouverons notre chronique nutrition avec Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et puis bien sûr, le numéro de l'émission pour nous appeler, témoigner, poser vos questions, 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Christophe Ezode, l'Organisation mondiale de la santé a fixé une échéance pour éliminer ces deux grandes hépatites B et C. Alors la date, c'est 2030. Est-ce que, selon vous, cette ambition de l'OMS est crédible ?
Alors, c'est un très très grand projet et c'est vraiment formidable parce que, comme vous l'avez indiqué, la nouveauté de ces dernières années, c'est qu'il y a une progression des décès dus aux hépatites virales. Il y a une diminution pour le VIH ou la tuberculose, mais il y a une progression pour les hépatites virales et donc c'était très important que l'OMS donne cet objectif. Alors, c'est un objectif qui sera atteint dans certains pays, par exemple en France, pour l'hépatite C. Aujourd'hui, on se fonde et on espère avoir une élimination de l'hépatite C en 2025. Et si on met tous les moyens, on pourrait véritablement l'atteindre sans problème.
Pourquoi tout à l'heure vous disiez, excusez-moi de vous interrompre, oui, professeur Ezode, vous disiez la morbidité, le nombre de personnes qui décèdent en raison de ces hépatites a augmenté contrairement à d'autres grandes infections. Pourquoi ? Parce que ça a été négligé ?
Oui, alors c'est-à-dire que ce sont des maladies qui sont potentiellement dangereuses avec la cirrhose et le cancer. Et le problème, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire que, en gros, pour les hépatites virales B et C, et principalement pour l'hépatite B, les traitements sont au nord et les patients sont au sud. Donc, si vous êtes dans l'hémisphère nord, eh bien, vous pouvez avoir un accès, on va dire, à un traitement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès. En France, maintenant, il y a le traitement pour tous. Mais dans l'hémisphère sud, même s'il y a des améliorations, ce n'est pas encore le cas.
Et peut-être à un tel point qu'au nord, certains ignorent tout simplement que l'on peut mourir de l'hépatite B, ce qui a poussé à un certain moment les gens à négliger d'une certaine manière la vaccination, parce que l'hépatite B, ce n'était pas si grave, dans les esprits, pas dans la réalité.
Absolument. Et puis il y a eu cette polémique autour du vaccin qui pouvait potentiellement donner des maladies neurologiques. Maintenant, je crois qu'on est sorti là de cette crise et qu'il a été clairement montré qu'il n'y avait pas de lien entre la vaccination et la survenue de ces complications neurologiques.
Professeur Christophe Hézode, on va commencer par aborder ce qui rapproche d'abord ces deux virus B et C. On pense bien sûr d'abord au mode de contamination.
Oui, alors vraiment ce sont des virus qui se transmettent les deux par le sang. Ça c'est vraiment, et c'est le principal mode de contamination. Alors après, pour le virus de l'hépatite B, il y a une contamination sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a la présence du virus dans le sperme, dans les sécrétions vaginales. C'est pas le cas pour le virus de l'hépatite C. Donc pour se contaminer pour le virus de l'hépatite C, on peut le faire lors de rapports sexuels, mais il faut qu'il y ait du sang. C'est-à-dire, c'est des rapports sexuels traumatiques. Mais vraiment, le grand mode de contamination, c'est le sang.
Alors souvent, quand on parle d'infection, on parle de population cible, notamment quand il y a des campagnes de prévention. Est-ce que là, pour ces hépatites, il existe justement des populations particulièrement susceptibles de contracter ces hépatites ?
Oui, alors si on est en France, par exemple, eh bien il y a les patients qui ont été transfusés avant les années 90, puisque avant les années 90, il n'y avait pas de test, on ne connaissait pas le virus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'un des grands moyens de prévention de nouvelles contaminations, eh bien, c'est qu'il faut que les donneurs de sang soient absolument dépistés, screenés dans 100% des cas. Il y a également les usagers de drogue. Et là aussi, c'est pareil.
Si les usagers de drogue par voie intraveineuse.
Par voie intraveineuse, principalement. Et on sait que la majorité des patients qui ont eu au moins une expérience d'usage de drogue intraveineuse sont contaminés par le virus, parce que souvent elle se fait lors de la première injection, lors de l'initiation. Souvent il y a quand même partage de seringues, etc. Et il peut y avoir donc une contamination à ce moment-là. Ce qui veut dire aussi que il faut impérativement, si on veut prévenir, que les injections puissent se faire
de façon sécurisée. Alors justement, on continue avec ce qui rapproche les deux maladies, les complications.
Oui, alors les complications, c'est essentiellement la cirrhose. Alors qu'est-ce que c'est que la cirrhose ? La cirrhose, c'est un foie qui est plein de fibrose. Et qu'est-ce que c'est que la fibrose ? La fibrose, ce sont des cicatrices. Et ces cicatrices, elles arrivent parce qu'il y a de l'inflammation chronique, continue dans le foie. Et un foie de cirrhose, c'est un foie qui devient dur. Alors c'est vrai que en France, on a tendance à associer alcool et cirrhose. Quand on a une cirrhose, c'est qu'on est forcément alcoolique. Pas du tout. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, dans un pays où il y a une consommation d'alcool importante, l'origine alcool peut être fréquente pour la cirrhose. Mais il y a des cirrhoses qui peuvent survenir sans avoir jamais consommé une goutte d'alcool. Et elles peuvent être dues en particulier aux infections chroniques par le virus de l'hépatite B ou par le virus de l'hépatite C.
Autre point commun, professeur Christophe Hézode, entre ces deux maladies, beaucoup de porteurs ne le savent pas, beaucoup d'infections sont muettes.
Oui, alors ces deux infections, on va dire dans l'immense majorité des cas, elles sont silencieuses. C'est-à-dire que si on ne fait pas le test de dépistage, eh bien, on ne le sait pas. Ça peut donner de la fatigue, mais on est tous à un moment plus ou moins fatigués. Et donc, c'est très, très difficile. Et donc, il faut essentiellement faire un test de dépistage si on a été confronté à des facteurs de risque.
Alors, on va bientôt passer aux auditeurs de Priorité Santé, à toutes leurs questions. Mais encore ce point avec vous, professeur Hézode. Comment se fait-il qu'un si grand nombre de personnes concernées directement, touchées par ces hépatites B et C, ne soient pas au courant de leur statut sérologique ?
Alors ça, c'est le grand problème des politiques de dépistage. Alors pour qu'une politique de dépistage soit efficace, il faut qu'il y ait une politique de santé, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut que les hépatites soient une priorité projet de santé publique, il faut des plans nationaux. C'est ce qui a été fait en France. En France, vraiment, on l'a fait depuis le tout début de l'épidémie. Et aujourd'hui, on peut être assez fier parce qu'on est probablement le pays dans lequel on a le plus de dépistés pour l'hépatite C. Par exemple. Et alors, il reste encore 75 000 personnes à dépister, mais on peut dire que plus de la moitié des patients ont été dépistés. Mais le secret, c'est des campagnes de dépistage et une volonté politique.
Dernier point, professeur Ezot, c'est très important, la vaccination pour l'hépatite B, on l'a évoqué tout à l'heure simplement du point de vue des polémiques. Le plus important, c'est de dire que cette vaccination, elle doit être très précoce.
Absolument, c'est-à-dire que dans les pays où l'hépatite B est très fréquente, il faut faire ce que l'on appelle une vaccination universelle à la naissance, quel que soit le statut de la mère, puisque la transmission du virus, elle se fait à la naissance, au moment de l'accouchement, souvent. Et donc, on ne peut pas, dans des pays où il y a 10, 15, 20 ou plus % des femmes enceintes qui sont contaminées par le virus, on ne peut pas raffiner en faisant des tests de dépistage. Et donc, il faut vraiment vacciner tous les enfants à la naissance.
Au premier jour de la vie.
Absolument.
Professeur Christophe Ezot, vous restez avec nous. On donne tout de suite la parole aux auditeurs et aux auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce premier auditeur, c'est Louis qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Louis.
Bonjour madame.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour docteur. Oui, bon. J'ai l'hépatite C depuis une vingtaine d'années, après inhalation d'un produit toxique. Et depuis, je n'ai jamais eu de soins. Je suis allé à l'hôpital et on m'a dit que soit mon corps évacue seul le virus et de ne pas avoir de rapport, d'avoir toujours des rapports protégés, de ne pas plus de prendre des produits excitants, enfin disons que l'alcool ou le café. Et c'est ce qu'on m'a interdit, bon, c'est ce que je ne faisais pas d'ailleurs. Et depuis, bon, j'ai souvent les pieds qui sèchent, la plante des pieds qui sèche, je ne sais pas si c'est vraiment, ça a un rapport après le. Comme on appelle les peaux molles, les peaux mortes tombent et je n'ai plus rien d'autre encore.
Excusez-moi de vous interrompre, Louis. Vous dites, vous êtes allé à l'hôpital suite à une inhalation de produits toxiques pour traiter justement éventuellement cette intoxication, mais bien évidemment, votre hépatite n'avait aucun rapport avec cette inhalation de produits toxiques. Ensuite, on vous a donné toute une série de conseils puisque vous avez été diagnostiqué comme porteur pour éviter la contamination. Et puis, vous avez des problèmes cutanés. Et vous, vous faites en quelque sorte des liens entre ces différents éléments.
Ben voilà, oui, parce que c'est ce que je n'avais pas auparavant. Et puis bon, maintenant, bon, je les ai. Mais bon, après, mais c'est périodique, hein. C'est pas fréquent, c'est périodique.
En même temps, sur 20 ans, on peut avoir d'autres symptômes qui ne sont pas, absolument pas liés à la maladie. Donc, on vous a dépisté. Je vais donner tout de suite la parole au professeur Christophe Ezot. Juste, votre question, c'est sur quoi précisément ?
Bon, comment avoir un médicament ? Parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de médicament en ce temps-là. Dans les années 90, on m'avait pas dit qu'il n'y avait pas de médicament. Ben, donc actuellement, je demande qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour des soins vraiment positifs, disons, pouvant m'aider à évacuer tout cela de mon corps.
Mmh. Alors la question de Louis, l'hépatite C, a priori, il n'en a pas les symptômes. Est-ce qu'il faut prendre le traitement lorsqu'on n'a pas déclenché les symptômes ? Il a tout à fait raison. Hein. Il y a 20 ans, ces médicaments n'existaient pas, tout simplement.
Oui, alors il y a plusieurs aspects, hein. C'est-à-dire que alors sur le problème dermatologique des pieds secs, je suis pas certain qu'il y ait de relation avec le virus de l'hépatite C, mais on peut dire que parfois il y a ce qu'on appelle des manifestations extra-hépatiques, c'est-à-dire des symptômes en dehors du foie, et parfois il y a des symptômes cutanés. En particulier, on sait que le virus de l'hépatite C peut déclencher des démangeaisons. Par exemple, et quand on guérit de l'hépatite C, ben, y a des gens qui disent « je ne me démange plus. Donc, on peut avoir comme ça quelques symptômes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le foie, par exemple la peau ou sur d'autres organes. Mais là, vraiment, je fais pas forcément le lien. En ce qui concerne les précautions que l'on vous a données, nous, vraiment, en France, et en particulier pour les rapports sexuels, on ne recommande pas le port du préservatif, sauf rapport sexuel pendant les règles. C'est-à-dire que s'il y a du sang, ok, mais s'il n'y a pas de sang, nous, on ne recommande pas le préservatif.
Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment pour la B qu'il y a contamination par
baie.
Voie sexuelle,
voilà.
mais pas forcément pour la C.
Voilà. Et puis, en ce qui concerne la prise des excitants, alors, en effet, l'alcool n'est pas recommandé. Hein, il est clairement établi que si l'on consomme, on va dire en gros, plus de 10 à 20 grammes d'alcool par jour, on peut aggraver son hépatite C. En revanche, le café, c'est très bon pour le foie. Et alors, il se trouve que j'ai même participé à des travaux scientifiques le montrant. Et si vous buvez 3 tasses de café, c'est très bien pour votre foie. Donc, il faut pas vous priver de café. Alors, en ce qui concerne le traitement, c'est vrai qu'il y a 20 ans, où que l'on soit sur la planète, il n'y avait pas grand-chose, où il y avait des traitements par interféron qui ne marchaient pas, qui ne permettaient pas d'éliminer le virus et qui donnaient beaucoup d'effets indésirables. Mais c'est vrai que maintenant, on a accès à des antiviraux qui sont vraiment extrêmement efficaces, puisque on peut vous guérir dans plus de 95% des cas. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à ces traitements via des génériques, mais qui sont parfaitement efficaces, parce que ce sont des génériques pour lesquels la licence, par exemple, des médicaments du laboratoire Gilead ont été donnés. Et il y a maintenant à peu près une quinzaine de génériqueurs qui ont ces licences. Et là, le prix des médicaments, bien sûr, est beaucoup plus faible, puisqu'on est à peu près aux alentours de, on va dire, 60 à 80 dollars le flacon. C'est-à-dire que pour un traitement de 3 mois, vous voyez, on est à des prix qui sont aux alentours de 200, 250, 300 dollars. Donc, c'est beaucoup plus accessible.
Alors, même si c'est très cher encore pour l'essentiel des populations en Afrique subsaharienne.
Absolument. Alors après, c'est quand déclencher le traitement. Si votre foie s'abîme, si vous êtes en train d'évoluer vers une cirrhose, il y a une urgence, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez prioritaire pour accéder au traitement. Si votre foie, est presque normal, c'est-à-dire que l'hépatite n'est pas très active, n'est pas très évolutive, bien sûr que là, vous pouvez encore attendre un petit peu, mais l'idée, et en particulier si on revient au principe d'élimination recommandé par l'OMS, c'est qu'il faut avoir un accès pour tous et le plus rapidement possible.
Donc Louis, ce conseil, c'est si vous en avez les moyens, oui, vous faire traiter, oui, prendre le traitement pour vous débarrasser de
Absolument.
Votre hépatite C. Très bonne journée pour vous à Abidjan. On va partir tout de suite pour la Guinée, vers Conakry, où on retrouve en ligne Fatima. Bonjour Fatima.
Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi j'avais posé une question il y a un peu longtemps sur l'émission. Alors, j'ai fait 2 fois un bilan annuel sur l'hépatite en général, sur tout mon corps. J'ai fait examen de sang et on m'a dit à 2 reprises dans de grands laboratoires que j'avais eu l'hépatite B, mais que c'est guéri. Que j'ai eu l'hépatite B depuis longtemps, mais que c'est guéri. Chaque fois, c'est ce qu'on écrit sur les résultats. Alors, la dernière fois, vraiment, j'étais inquiète. Je voulais prendre un vaccin. Et il y a un docteur qui m'a prévenu que ce n'est pas la peine de me vacciner, parce que si j'ai été guérie de l'hépatite B naturellement, c'est que je suis immunisée. Alors, c'est là mon inquiétude. Est-ce qu'il faut prendre le vaccin quand même, malgré qu'on me dit que c'est guéri ou quoi? Parce que des fois, je ressens des picotements au niveau du foie, au niveau des picotements ou un peu de douleur. Surtout quand j'exagère de prendre le paracétamol, certains médicaments contre l'hypertension, ça se manifeste. Mais chaque fois que je fais l'examen, on me dit « tu as eu l'hépatite B, mais c'est guéri ».
Alors, pour vous rassurer, Fatima, professeur, Christophe et Zod, répondre à cette question simple, quand on a eu l'hépatite B, est-ce qu'on est immunisé? Puis moi, j'ai une deuxième question. On peut guérir complètement de l'hépatite B?
Oui, alors, pour répondre à la première question, lorsqu'on est guéri et qu'on est, on est parfaitement immunisé.
Hein, donc c'est, ça, oui, c'est pas ça, la peine de se vacciner.
Non, non, il y a absolument aucun problème. Juste pour le petit commentaire, on sait qu'il y a sur cette planète 2 milliards de personnes qui ont été en contact avec le virus de l'hépatite B. Donc vous faites partie de ces 2 milliards, donc c'est extrêmement fréquent. Mais le passage à la chronicité, c'est-à-dire l'absence de guérison au moment de la contamination, c'est chez une minorité des patients, et c'est lié à l'âge de la contamination. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on passe à la chronicité, c'est pour ça qu'il faut vacciner
les bébés,
parce qu'ils passent dans 90% à la chronicité. Et si vous êtes contaminé à l'âge adulte, eh bien le passage à la chronicité, c'est 5% seulement. Hein, voilà. Donc, vous avez eu une hépatite B aiguë qui a guéri toute seule, donc c'est très bien, elle n'est pas passée à la chronicité, et vous êtes définitivement immunisé. Voilà. Donc vous êtes tranquille.
Vous êtes rassurée, Fatima, mais elle n'avait pas tort en disant l'usage excessif du paracétamol, de toute façon c'est très mauvais pour le foie, pour les reins, comme tout usage excessif de médicaments.
Voilà, il ne faut pas de mésusage des médicaments, il faut en prendre uniquement lorsqu'on en a besoin.
Voilà, bonne journée à Conakry, Fatima. On reste dans cette ville de Conakry, en Guinée, pour retrouver Naoukbé. Bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour RFI et tous les auditeurs de la radio RFI.
On vous écoute.
Ma question était de savoir si l'hépatite B, la transmission était obligatoire de père en fils. Et la deuxième question était pourquoi l'OMS n'investit pas dans la lutte contre cette maladie, tandis que dans les autres maladies, le palu, le VIH, sida, il y a trop de communication. Et le cas particulier de la Guinée où il y a un taux élevé, et que le pays observe beaucoup de silence face à cette situation.
Alors, deux questions bien distinctes. On va d'abord parler de la transmission de la maladie. On va dire, votre question concerne du père à l'enfant. Votre réponse, professeur Ezod?
Alors, non, il y a un très gros risque, hein, et ça, on l'a dit tout à l'heure, de transmettre le virus de la mère à l'enfant au moment de la contamination, et c'est pour ça qu'il faut vacciner. Alors, pour le père à l'enfant, bon, il y a un risque, mais bon, voilà, il faut faire attention si vous vous coupez, si il y a du sang, mais vous pouvez embrasser quoi, votre enfant, vous pouvez le tenir dans les bras, voilà. Il y a le risque de contamination, il est nettement moindre, mais c'est vrai que le meilleur, ce qu'il faut surtout, c'est que l'enfant soit vacciné, puisque s'il est vacciné à la naissance, ben, il n'y aura absolument aucun risque de contamination que le père, même si le père est atteint.
Naoukbé, est-ce que votre enfant, j'imagine que vous avez un enfant vu votre question, a été vacciné à la naissance?
Pas à la naissance, mais à 4 mois. Vous avez en Guinée, la communication autour de la du vaccin n'est pas aussi comme ça.
Oui, s'il a été vacciné à 4 mois, vous pouvez être rassuré.
Oui, oui, c'est bien.
À 4 ans.
Bon.
Oui, à 4 ans.
Et votre autre question, Naoukbé, portait sur une dimension plus politique de santé publique. Vous jugez, vous n'êtes pas le seul, hein, qu'il n'y a pas suffisamment d'attrait, de prise en charge pour ces hépatites. Pourquoi, professeur Ezod, quand on communique tant, même si c'est une excellente chose, par exemple sur le VIH-Sida, sur le paludisme, on parle encore beaucoup moins des hépatites?
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que jusqu'en 2016, la communication sur les hépatites virales était relativement confidentielle parce qu'on était centré sur le paludisme, la tuberculose et sur le VIH, hein, qui étaient 3 grands fléaux, hein, à l'échelon de la planète. Et puis c'est en s'apercevant que, il y avait de plus en plus de décès liés aux hépatites virales, cirrhose et cancer, que l'OMS a tapé un coup sur la table et a dit à partir de maintenant, c'est une priorité. Alors ça date de 2016, on est en 2018, il faut que les choses se mettent en place. Et encore une fois, vous savez, il faut qu'il y ait un relais politique locale. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une véritable volonté politique.
Le relais politique, il est aussi l'impulsion. Elle doit être aussi financière, bien évidemment.
Absolument.
Il faut mettre les moyens sur la table.
Absolument, absolument.
Merci beaucoup pour vos questions, Naoubé. Excellente journée chez vous à Conakry en Guinée. On peut parler pour le cas des hépatites d'une véritable géographie de la maladie. Comment expliquer que l'Asie, que l'Afrique concentrent autant de cas par rapport à d'autres régions du monde?
Alors, ben, par exemple, si on prend l'exemple de l'hépatite B, il a été par exemple clairement montré en Asie du Sud-Est que lorsqu'on mettait en place un programme de vaccination précoce, eh bien le nombre des hépatites virales B descendait de façon extrêmement importante. Alors, c'est vrai que dans les pays occidentaux, eh bien, on a eu un accès assez précoce à cette vaccination qui a permis de rendre énormément de services avec une diminution très très importante de l'éventuelle transmission à la naissance.
On a parlé tout à l'heure des évolutions, des complications parfois très graves de ces hépatites, professeur Christophe Hézode. Ce qui nous amène à parler des transplantations, des greffes, par exemple, de foie, même si dans justement ces régions touchées au premier chef, surtout en Afrique subsaharienne, ces transplantations, eh bien, c'est quasiment impossible d'y avoir accès. Peut-être éventuellement d'aller se faire opérer dans le Maghreb, dans certains cas de programmes d'échange de coopération en Europe, mais c'est quelque chose de totalement exceptionnel encore.
C'est absolument exceptionnel, et c'est vrai que alors, nous, ce que l'on voit aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, grâce aux traitements antiviraux de l'hépatite chronique C, on voit une diminution du nombre de transplantations pour hépatite C. C'est-à-dire qu'on voit en quelques années l'impact très positif de l'arrivée de ces traitements et aujourd'hui, il y a une diminution extrêmement sérieuse. Mais sinon, c'est une excellente indication, nécessaire. Mais encore, faut-il pouvoir avoir accès.
Vous restez avec nous, professeur Christophe Hézode. On va se retrouver juste après une petite pause musicale en compagnie de Tchégué avec Moana Potou. Tchégué sur RFI, on vous retrouve, professeur Christophe Ezod, hépatologue au CHU Henri Mondor à Créteil, en région parisienne. Alors, on a parlé justement des programmes pour une meilleure prise en charge de ces deux maladies du foie, hépatite B et hépatite C. Et certains demandent même que ces hépatites rejoignent les grands dispositifs de financement. C'est peut-être un petit peu technique, mais c'est important parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre malgré tout. Qu'est-ce que ça changerait, professeur Christophe Ezod, que les hépatites rejoignent les dispositifs comme le Fonds mondial ou encore United?
Ah ben, c'est sûr que, comme vous le dites, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent pour faire les campagnes de dépistage, c'est l'argent pour payer quoi, les traitements, c'est l'argent pour faire éventuellement des tests virologiques pour savoir si on est contaminé, pour savoir si l'on est guéri, c'est l'argent pour évaluer la situation du foie, est-ce qu'il est vraiment malade, est-ce qu'il y a une cirrhose, est-ce qu'il y a un cancer, c'est de l'argent pour faire des examens radiologiques, une échographie pour dépister le cancer du foie. Donc il est clair que s'il y a de l'argent, on peut travailler. S'il n'y a pas d'argent, ben ça devient très compliqué.
Avec une autre question qui se pose, c'est celle du dépistage systématique des hépatites. Est-ce que ça vous paraît pertinent, professeur Christophe Ezod, ou est-ce qu'il vaut mieux avancer par palier vers des dépistages à certains moments clés de la vie? On pense bien sûr aux grossesses, comme pour dans certains pays, certains dépistages au moment de l'union, au moment... Voilà, qu'est-ce qui vaut mieux en général ou sur certains moments particuliers?
Oui, alors en ce qui concerne le dépistage, je crois que chaque pays a sa situation. Il y a en gros trois grands types de dépistage. Il y a aussi le dépistage sur facteur de risque. On a été confronté à un facteur de risque, donc on fait un dépistage. Il y a des dépistages populationnels parce qu'on sait que dans telle ou telle tranche d'âge, par exemple, eh bien, il y a beaucoup d'hépatites virales. Je prends juste l'exemple des États-Unis. Ben, l'hépatite C, c'est essentiellement chez les baby-boomers. Donc il suffit de dépister tous les baby-boomers de façon systématique et on va trouver toutes les hépatites. Et puis après, vous avez le dépistage universel. Alors, le dépistage universel, ça paraît absolument idéal une fois
dans sa vie. Ça existe quelque part dans le monde ?
Alors, ça a été recommandé, par exemple, en France pour le VIH, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Même ça n'a pas fonctionné du tout.
Bah, les associations s'y opposaient, une certaine partie de la population s'y opposait. De toute façon, on a vu que ce n'était pas forcément quelque chose de bénéfique, même pour les personnes touchées.
Absolument. Alors là, on essaie de remettre ça sur le tapis pour... l'hépatite C, parce que c'est vrai qu'il nous reste 75 000 personnes et que en France, et que aujourd'hui on est arrivé un peu à la fin du dépistage ciblé, c'est-à-dire qu'on a beau tenter, eh bien le nombre de nouveaux dépistés augmente de 4% par an, et si ça augmente de 4% par an, on n'arrivera pas à éliminer la maladie en 2025. Mais voilà, est-ce que c'est coût efficace? Est-ce que c'est possible? Je crois que vraiment il faut étudier ça à l'échelon de chaque pays et de chaque situation qui est particulière.
Alors, situation particulière, on va voir tout de suite celle du Cameroun. Vous restez avec nous, professeur Christophe Ezod.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve tout de suite le professeur Oudou Njoya. Bonjour, professeur.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes chef de service de médecine interne au CHU de Yaoundé, directeur du laboratoire de recherche sur les hépatites virales et la communication en santé à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Pour commencer, ces hépatites B et C au Cameroun, professeur Njoya, est-ce que vous avez des chiffres pour ces deux virus dans votre pays?
Alors, pour l'instant, les chiffres sont ceux des chiffres officiels de l'OMS qui font du Cameroun un pays de haute endémicité aussi bien pour l'hépatite B que pour l'hépatite C. Normalement, à ce jour, on pense qu'en moyenne, il y a 8 à 10% de la population camerounaise atteint l'hépatite virale B et à peu près pareil ou juste un peu pour l'hépatite virale C. C'est vrai qu'il y a eu récemment une petite polémique à la suite de certains travaux qui tentait de réduire le chiffre des personnes atteintes. Mais il faut relever tout de suite que cette étude avait la faiblesse de s'être intéressée à une tranche de la population, oubliant les personnes âgées d'un certain âge et les personnes plus jeunes. Car il faut le dire, malgré le fait qu'on ait dit que c'était les personnes plus âgées qui étaient atteintes, on voit de plus en plus de jeunes personnes qui sont atteintes d'hépatite virale C chronique prouvée.
Alors justement, du côté du dépistage, quand on a essayé de faire un petit peu le tableau de la situation au Cameroun, on sait aujourd'hui qui se fait dépister, professeur Njoya ?
Le problème de dépistage est comme ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que ça dépend des populations, ça dépend des pays, mais d'une manière générale, il faut dire que dans des pays comme les nôtres, qui sont des pays jeunes en matière de ce type de santé publique, il faut s'adresser soit des populations à risque, soit des populations qu'on appelle les key populations, c'est-à-dire les populations clés, enfin, les populations clés, qui sont les personnes qui, les gens où on peut trouver plus d'hépatite virale. Parce que le véritable problème dans les pays comme les nôtres, c'est l'accès à ce dépistage et surtout l'accès vers les populations qui sont à risque ou bien qui sont les populations exposées.
Alors du côté de la vaccination maintenant, vaccination bien sûr contre l'hépatite B, professeur Udunjoya, est-ce que c'est satisfaisant au Cameroun ?
Alors, pour l'instant, depuis 2005, la vaccination contre l'hépatite virale B est rentrée dans le programme élargi de vaccination. Donc, ça veut dire que les enfants qui sont nés au Cameroun à partir de cet âge-là sont systématiquement vaccinés. Mais la faiblesse dans cette approche, c'est qu'ils sont vaccinés à partir de 6 semaines. Vous voyez, donc, entre la naissance et 6 semaines, cette fenêtre expose encore les enfants à des contaminations, surtout s'ils sont nés des mères positives ou alors vivant dans un entourage à risque, les parents, les proches, vous savez qu'en Afrique, il y a une vie très communautaire. Hein. Donc, cette fenêtre de 6 semaines expose encore les enfants au risque de contamination. Donc, l'idéal serait qu'on puisse avoir accès à un vaccin monovalent qu'on applique dès la naissance dans les populations à risque.
Par les sages-femmes avec d'autres vaccinations qui sont déjà faites justement dès que le bébé vient de naître. Une autre question, professeur Udunjoya, sur les moyens d'améliorer la lutte contre les hépatites, donc outre faire ce vaccin plus tôt pour les bébés, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation au Cameroun ?
La situation du Cameroun a deux grandes facettes. Il y a eu des améliorations faites par l'État en termes de mise à disposition de vaccination, aussi en termes d'accessibilité au traitement contre l'hépatite virale C, par exemple. Mais il reste que, malgré ces efforts, il y a encore des faiblesses, notamment dans la sécurisation de la transfusion sanguine, qui n'est pas encore une chose de faire chez nous, parce que l'une des causes de la transmission, l'une des portes de transmission des hépatites virales, qu'elle soit B ou C, c'est encore la transfusion sanguine. Parce que même si on fait des sérologies, vous convenez avec moi, et ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas suffisant pour être près le patient à l'abri, tout au moins le receveur à l'abri. Donc, l'accès à la biologie moléculaire pour sécuriser la transfusion sanguine est une chose importante, mais aussi l'accès aussi aux moyens d'études scientifiques pour pouvoir avoir toutes les données d'épidémiologie. C'est pour cela que tout à l'heure vous parliez pourquoi les hépatites virales sont projetées dans le cadre des grands financements de recherche. On devrait le faire, puisque c'est une priorité mondiale aujourd'hui. On devrait le faire pour avoir toutes les données. Parce que si nous projetons de nous débarrasser des hépatites virales C, par exemple, d'ici à 2030, mais encore faut-il qu'on puisse prévenir les nouvelles infections. Et pour prévenir les nouvelles infections, il faut absolument maîtriser toutes les données épidémiologiques.
Vous parliez à l'instant de ce facteur de la transfusion sanguine comme facteur de contamination, mais est-ce qu'on voit à l'inverse hein, avec un certain nombre d'appels des auditeurs ? Je vois Ousmane du Tchad ou Kossi du Togo. Eh bien, c'est qu'ils ont appris leur statut sérologique en donnant leur sang à l'inverse. Donc, donner son sang, ça peut être aussi un moyen justement de se faire dépister et d'être mis au courant de son statut sérologique. Dernière question, il nous reste peu de temps, professeur Njoya, du côté des traitements, est-ce que c'est accessible au Cameroun ?
Alors, depuis l'avènement des nouveaux antiviraux, antiviraux action directe, le Cameroun a fait des efforts pour avoir des négociations directes avec des firmes de pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, on peut, avec 458 euros, après l'équivalent de 300 000 francs CFA, avoir un traitement de 3 mois. Mais en même temps, nous sommes en train, dans notre laboratoire, de mener une étude de faisabilité du traitement de l'hépatite virale C par ces nouveaux antiviraux. C'est une étude financée par la firme PharmAccess qui va nous permettre de voir comment est-ce que les médecins et les patients se comportent vis-à-vis de cette nouvelle approche thérapeutique. Donc, toutes ces choses mises ensemble vont permettre à ce qu'on puisse améliorer l'approche thérapeutique et l'approche santé publique du problème, mais il reste que ces efforts sont très appréciables, mais il reste que, compte tenu du fait qu'on a quand même une grosse fréquence de cette maladie, il faut mettre plus de moyens que ça, parce qu'aujourd'hui, le sida, qui est une maladie chronique, les gens vont plus mourir des complications d'hépatite virale B et C sur sida que du sida lui-même. Donc, voyez-vous,
absolument, professeur.
Voilà.
Priorité de santé publique. Le professeur Christophe Ezot souhaite vous poser une petite question.
Oui, c'est juste une petite question vis-à-vis des médicaments qui sont disponibles pour l'hépatite C. Parce que nous, on a remarqué que les patients qui étaient en échec de ces antiviraux directs étaient souvent des personnes d'origine africaine avec des génotypes qui étaient, on va dire, un peu atypiques. Alors, il y a des génotypes 1L, 1E, 1G, etc., etc. Et on se rend compte que ces génotypes atypiques sont surtout présents chez des patients qui ont été contaminés en Afrique. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les molécules, les traitements de première génération sont moins efficaces que les traitements de deuxième génération, comme glecaprevir, pibrantasvir ou sofosbuvir, velpatasvir. Donc, est-ce que vous avez ce type de médicaments?
Non, pas encore. Nous sommes encore à sofosbuvir et dispavir et puis daclastavir. Donc, Vestispavir pas encore au Cameroun, même si pour l'instant ils ont déposé des autorisations d'AMM. Donc effectivement, c'est une curiosité pour nous aussi. On a commencé à les recenser, les quelques cas d'échec qu'on a eu pour pouvoir rechercher sur le plan génétique, sur le plan du génotype aussi, ce qui pourrait l'expliquer.
On comprend bien là les spécialistes qui se parlent entre eux. Je ne sais pas si on a tous bien compris ce qu'ils disent. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de la recherche. On vous remercie beaucoup, professeur Oudoun Joya, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Je rappelle que vous êtes chef de service de médecine interne du CHU de Yaoundé au Cameroun. Professeur Ezot, la recherche avance, on évolue justement grâce à l'apport de ces nouveaux médicaments.
Ah oui, absolument. Donc pour le virus de l'hépatite C, je dirais même que la recherche s'est terminée, hein, puisque en recherche de nouveaux médicaments, il n'y en aura pas. Tous les médicaments sont archi efficaces. Et pour le virus de l'hépatite B, je dirais tout commence, puisqu'aujourd'hui on a des médicaments pour bloquer la multiplication que du virus. Et maintenant, il faut des médicaments pour éliminer le virus.
Alors, j'ai une question de Kossi qui est au Togo, dans la ville de Lomé. Hélas, on n'a pas suffisamment de temps pour le passer à l'antenne, mais je vais répercuter là son interrogation. Hein. En 2012, il a fait un test, il a appris qu'il avait l'hépatite B. Justement, il voulait faire un don du sang, mais récemment, il a refait le test à l'occasion d'un voyage. Et là, on lui a répondu qu'il était négatif à cette même hépatite B. Il a été vacciné, il a reçu 3 injections et il s'interroge comment est-ce que il y a 6 ans, il pouvait être positif et récemment passer en négatif. Professeur Ezot.
Oui, alors c'est un peu étrange. Ce qu'il faut bien dire, c'est que l'analyse de la sérologie de l'hépatite B, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais soit on peut être infecté, soit on peut avoir été infecté mais guéri, soit on peut avoir été vacciné. C'est-à-dire qu'à partir de cette sérologie, on peut savoir exactement dans quelle situation on est, ou même n'avoir jamais rencontré le virus et puis ne pas être vacciné. Donc c'est une interprétation qui est parfois un petit peu complexe et parfois c'est difficile pour les patients de bien comprendre. Peut-être qu'on lui a dit qu'il avait été en contact avec le virus mais guéri et qu'il a entendu contact avec le virus.
En tout cas, c'est plutôt une bonne chose d'avoir été vacciné.
C'est plutôt une très bonne chose, voilà.
D'avoir été vacciné, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, les effets secondaires, les doutes, tout ça a été balayé un peu par les recherches scientifiques pour rassurer les personnes. Avec, si on avait un message vraiment à faire passer en termes de santé publique, c'est la vaccination
la plus
précoce possible.
Absolument, et c'est bien ce qu'a dit notre collègue du Cameroun, c'est que
quelques mois, ça peut changer les choses.
Ça peut changer, voilà, 6 semaines, ça peut changer. Donc c'est très très important.
Dès la naissance. Merci beaucoup, professeur Christophe Ezot, pour toutes ces explications. On a bien compris l'importance à la fois du dépistage et de l'accès aussi au traitement contre les hépatites. Je rappelle que vous êtes hépatologue au CHU Henri Mondor à Créteil, en région parisienne. La santé et l'alimentation, dans Priorité Santé, on en parle tout de suite avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Alors, on pose une question aujourd'hui. Quelle alimentation peut-on adopter quand on fait le jeûne du Ramadan? Si l'on est en parfaite santé, quels sont justement, Stéphane Besançon, ces conseils importants pour une bonne alimentation, donc quand on observe ce jeûne?
Alors, d'abord, il faut commencer par bien différencier deux temps importants et deux repas très importants dans cette journée. Il y a le premier qui va être le repas qu'on appelle le repas de l'aube, le sahour, qui va être du coup le premier repas et qui va être très très important parce qu'il va devoir permettre d'emmagasiner toute l'énergie qu'il faut pour passer toute la journée, puisqu'après d'après ce repas il y a une phase de jeûne qui va s'installer, et donc il faut qu'il soit pris le plus près possible du lever du soleil et qu'il soit constitué plutôt d'aliments solides, on va dire en termes énergétiques, plutôt des glucides, des sucres complexes avec des céréales comme le pain ou d'autres types de céréales pour vraiment emmagasiner cette énergie et bien commencer la journée. Après il y a deuxième repas qui on appelle l'iftar, qui va être celui du moment de la rupture du jeûne. Et celui-là aussi, il est très important, surtout en termes de composition, parce que contrairement à ce qui est fait souvent, il faut éviter les aliments très sucrés, les aliments aussi très gras, et plutôt aller vers quelque chose composé de céréales accompagnées d'une sauce plutôt légère, un peu de viande, un peu de poisson, et bien sûr d'éviter, comme je disais, d'éviter du gras, plutôt des viandes maigres que des viandes grasses.
Alors pendant cette période du Ramadan, on a tendance à penser alimentation. Il y a une autre question pourtant essentielle qui est souvent négligée, Stéphane, c'est celle de l'hydratation.
Elle est totalement centrale parce qu'on parle souvent de pas manger, mais en fait on ne boit pas non plus pendant cette journée. Et il faut pas oublier que le mois de Ramadan, il court sur le calendrier, donc on va avoir d'une année sur l'autre des périodes différentes et on peut avoir des temps de jeûne et donc des temps de non-hydratation qui vont être très très long, et surtout, comme ça peut être le cas cette année, on va être en plein mois de mai avec des journées très longues et surtout pour beaucoup de pays, une température très haute. Donc l'hydratation est vraiment vraiment centrale, et là aussi pour bien s'hydrater, ben, il faut déjà essayer de s'hydrater toute la nuit et de prendre un maximum d'eau avant la rupture pour pouvoir emmagasiner de l'eau et pas se retrouver en situation de déshydratation. Et il faut aller au maximum vers comme boisson de l'eau, parce que souvent on sait que c'est la période aussi où les gens boivent beaucoup de sucreries. Il faut éviter au maximum et vraiment vraiment se concentrer sur l'eau.
Alors, des cas particuliers, hein, quand on est malade, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Est-ce que l'on jeûne ou est-ce que l'on ne jeûne pas?
Alors d'abord, il faut rappeler que le Coran est très clair là-dessus et permet de soit ne pas jeûner, soit stopper le jeûne. Ça, c'est déjà le premier point très important. Ça va être le cas aussi des femmes enceintes, par exemple, qui ont l'autorisation de pas jeûner, et puis les plus jeunes aussi. Mais malgré le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que malgré cette notion, comme le jeûne est d'un des cinq pieds d'islam, beaucoup de gens la contournent. Et donc, il est quand même vraiment, vraiment, vraiment important de rappeler ça à chaque fois, que pour les personnes malades ou certains types de personnes, il est possible de ne pas jeûner ou de stopper le jeûne.
Alors justement, est-ce qu'il y a des conseils toujours pour les personnes malades? Est-ce qu'il faut savoir avant ou non d'entamer ce jeûne?
Alors, la chose que je rappelle, comme je l'ai rappelé juste avant, c'est qu'il est important de rappeler que le jeûne change sur le calendrier, ce qui veut dire que les conditions de jeûne vont changer. Donc, il faut pas se dire, parce que je fais le jeûne depuis 10 ans, je le reproduis de la même manière. Et quand on a un doute, la recommandation principale, c'est de prendre un avis médical pour faire un bilan, pour regarder. Et en général, les médecins maintenant, en plus, sont très bien formés là-dessus et pourront dire si les gens peuvent y aller, peuvent ne pas y aller, ou s'il faut adapter des choses, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important. Donc, la recommandation, absolument, c'est prendre un avis médical en cas de doute avant de démarrer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Besançon, je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous parlerons des déserts médicaux. Reportage en Auvergne avec Igor Strauss. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur l'application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr, rubrique émission. On se retrouvera demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.